défiler le contenu du PowerPoint dans un premier temps, puis après je pose
oui,
des questions, hein, c'est ça.
Oui.
Toutes les questions qu'on a vues.
On va dire d'abord bonjour.
Alors, premièrement, la sono marche, c'est déjà un point d'acquis. La vidéo marche. Monsieur Roblin marche, mais il s'est arrêté devant le pupitre. Et l'assistance est assise. Et donc, on peut commencer. Je ne sais pas si on ferme la porte ou... Non. Bon, on vous laisse faire. Donc, bonjour à tous. Merci de cette d'être présent.
Allô.
Voilà. Pour cette heure que nous allons passer ensemble sur le registre des livres indisponibles. Dès le début de ma carrière de bibliothécaire, j'ai connu le catalogue des livres disponibles, puis etc. La base de données des livres disponibles. On était tout le temps dans les livres disponibles. Et voilà que là, nous sommes dans l'indisponible. Cette présentation est faite sur proposition de la SOFIA et j'ai accepté de l'animer, mais c'est surtout vous qui allez l'animer, en posant quelques questions, en essayant de me placer de différents points de vue de personnes ou d'organismes, d'institutions d'intérêt qui sont concernés par ce registre, en particulier les bibliothèques. Mais il n'y a pas que les bibliothèques dans la vie, donc ce ne sont pas seulement les bibliothèques qui sont concernées par ce registre. Donc, nous pouvons y aller. Christian Roblin, directeur de la SOFIA, va nous expliquer...
Oui, je vais faire une présentation très brève.
Voilà.
Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de nous avoir donné cette possibilité. Et Dominique Lahari, que je connais depuis une paire d'années, depuis bien plus que ça, et avec qui on a déjà eu des débats un peu dialectiques, est toujours très intéressant et dont je connais aussi les conférences depuis très longtemps dans beaucoup de lieux. Donc je leur remercie d'avoir accepté de poser des questions critiques sur ce dispositif, c'est-à-dire des questions que chacun se pose, comme dans tous les cas où les dispositifs ne sont pas encore en œuvre, et parfois même quand ils sont en œuvre, mais c'est toujours plus le cas quand les choses ne sont pas en place. Alors, je vais passer à la deuxième vue. Je vais aller assez vite. C'est une présentation extrêmement succincte, c'est plutôt un rappel pour ceux qui n'auraient pas tout à fait à l'esprit des questions qui nous occupent évidemment quotidiennement, mais probablement vous un peu moins, en raison de la diversité de vos missions. Alors la SOFIA a été agréée pour gérer les droits numériques des œuvres indisponibles le 21 mars, le jour de la publication de la première liste, pour l'exercice des droits d'exploitation numérique des livres indisponibles. C'est bien l'exercice des droits. La loi ne transfère pas les droits, c'est seulement un exercice, et vous allez le voir dans l'exposé qui suit, les ayants droit, les auteurs, leurs ayants droit et les éditeurs ont des facultés de retrait ou d'opposition à tout moment. Ce qui fait qu'ils récupèrent leurs droits quand ils veulent. Il faut d'abord définir les choses. Donc, qu'est-ce qu'un livre indisponible ? C'est un livre sous droit, hein, qui est publié en France entre le 1er janvier 2001, ça c'est ce que nous avons ajouté à la loi, parce que la loi disait simplement, elle porte le titre « œuvre du XXe siècle ». Donc, c'est le 1er janvier 2001, vous savez, il y a eu la querelle en l'an 2000, mais l'année 2000 appartenait au XXe siècle, parce qu'on commence à l'année 1. Donc là, ça commence le 1er janvier 2001. 1901, et ça va jusqu'au 31 décembre 2000. Et ils ne sont plus commercialisés, ni publiés sous forme imprimée ou numérique, et le projet devrait en comporter 500 000. Il a été conçu dans ce sens. J'étais trop vite. Poum, 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 poum. Donc, il répertorie en 2013 à peu près 60 000, je crois 58 000 et quelque chose de premiers livres. Ce registre sera enrichi progressivement le 21 mars de chaque année. Donc il y a une date anniversaire qui correspond aussi au printemps et qui correspond à peu près à la période où il y a le Salon du Livre également. Il permet la numérisation et la diffusion de livres en format numérique, de livres imprimés réputés indisponibles. Les auteurs, l'avantage ou l'intérêt du projet, c'est que les ayants droit, puisque c'est des livres sous droit, sont associés à la seconde vie de leur titre et ils participent aux nouvelles perspectives d'exploitation numérique. Et non seulement ils y sont associés, mais par ailleurs, ils contrôlent, ils ont la faculté de contrôler les conditions dans lesquelles sont diffusés ces livres. Le rôle de la SOFIA dans cette affaire, c'est de veiller à la bonne exploitation des ouvrages par des licences appropriées, faire remonter les données concernant les utilisations, faire payer les droits qui sont les droits correspondants et naturellement rémunérer les ayants droit. Donc c'est une répartition équitable des sommes aux auteurs, aux ayants droit et aux éditeurs. Dans le cadre du droit de prêt comme de la rémunération pour copie privée, la rémunération était partagée à parts égales, moitié-moitié. La loi du 1er mars 2012 ne dit pas cela, elle dit que les auteurs ne peuvent pas être rémunérés moins que les éditeurs. Enfin, ça c'est le sens de la disposition. Ça n'est pas une citation littérale, mais c'est son sens, c'est-à-dire que les éditeurs ne peuvent pas percevoir plus que les auteurs. Et ça veut dire qu'il peut y avoir une rémunération moindre. On s'acheminera cependant probablement vers un 50-50, y compris pour les œuvres incorporées. Il y a les auteurs des livres et puis il y a les contributeurs occasionnels, notamment les auteurs d'images fixes.
S'il vous plaît, Isabelle Moreau de Clermont-Ferrand a oublié son sac dans la salle d'atelier. Il attend au commissariat général.
Le sac est patient, il l'attend au commissariat général. Donc, Isabelle Moreau n'est pas dans la salle, autrement elle se serait levée d'un bond. Nous allons regarder maintenant, est-ce que ça défile automatiquement ou non? C'est ça le problème. Donc, tu l'avais enlevé la temporisation, non? Bon. Ça n'a pas marché. On a fait une petite manip tout à l'heure pour enlever la temporisation des images, mais ça se fait quand même. Et donc, on va continuer. Donc, le rôle de SOFIA, c'est donc de veiller à cette répartition équitable des sommes, sachant qu'il y aura un préciput calculé par catégorie d'ouvrage pour les auteurs d'hommages fixes incorporés et qui sera géré par les sociétés de l'image, la DAGP et la SAIF. Donc, le calendrier du projet, c'est 21 mars, et puis il y a 6 mois pour les oppositions, 21 septembre, où les oppositions sont enregistrées auprès de la Bibliothèque nationale de France. Ce sont celles donc, des auteurs, des ayants droit et des éditeurs qui souhaitent retirer leurs livres du registre. Nous avons 3 mois pour répondre à ces demandes. Nous le faisons beaucoup plus vite. En fait, il n'y a pas d'appréciation qualitative sur ces demandes. Nous vérifions simplement que les pièces nous ont bien été transmises et que la volonté est claire, que l'ayant droit a toute apparence de l'être. Et à ce moment-là, nous enregistrons sa demande. Il n'y a pas d'appréciation. Poum, poum, poum. Hop, on va jouer comme ça. Et à partir du 21 septembre, les livres entrent en gestion collective. La liste n'est pas totalement définitive parce que les oppositions qui ont été déposées jusqu'au 21 septembre, bien, il y a le temps d'instruction et les ouvrages pourront être, entre guillemets, retirés. Ils ne sont pas réellement retirés de la liste. La liste, elle est ce qu'elle est. Simplement, ils ne sont pas exploités. Il y a les mentions, justement. On conserve la mémoire de ce qu'elle est et on conserve la mémoire des oppositions. Mais ils ne feront plus l'objet de numérisation. Là, nous allons examiner 2 cas, celui des éditeurs et des auteurs, et j'ai réservé la partie bibliothèque au débat qui va suivre, donc elle n'est pas présentée ici. Donc si vous êtes éditeur ou vous opposez à la numérisation, vous avez 2 ans pour prouver que vous exploitez bien le livre, et vous devez le faire en accord avec l'auteur, puisque en sortant du dispositif, vous ne bénéficiez plus La faculté d'exploiter sans aucun accord. Il faut que ce soit un contrat, un avenant ou les dispositions contractuelles existantes qui vous le permettent. Vous restez dans le dispositif, alors la SOFIA vous proposera une licence d'exploitation et des précisions sur la numérisation par une société de projet qui elle-même est en voie de constitution. Voilà. Pour faciliter la gestion de vos droits, on vous permet de remplir un formulaire comportant tous les renseignements, notamment les ouvrages de votre propre catalogue, pour qu'on sache que vous-même, comme ayant droit, comme éditeur, eh bien, vous avez bien repéré les livres qui vous appartiennent et qui ont pu être exploités sous d'autres marques. Des fonds ont pu être achetés. Nous avons un chaînage des fonds chez nous, mais il n'est pas exhaustif. Donc, nous avons répertorié 1 300 000 livres, mais nous n'avons pas la certitude d'avoir tous les renseignements sur les livres du XXe siècle. Pour les éditeurs d'origine, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'édition Princeps, vous bénéficiez d'une licence d'exploitation exclusive qui est d'une durée de 10 ans. Elle est renouvelable tacitement. Et vous aurez 3 ans, alors que dans le cas où vous sortez, vous n'avez que 2 ans. Là, vous avez 3 ans pour prouver que vous exploitez bien le livre. Si les droits ont été rendus à l'auteur, c'est-à-dire si l'ouvrage est considéré comme épuisé, parce que la loi ne porte pas atteinte aux dispositions actuelles du code, et si les droits ont été rendus, bien la licence d'exploitation non exclusive s'appliquera. Vous n'avez plus les droits, vous avez rendu à l'auteur, donc vous n'aurez pas non plus la rémunération. C'est l'auteur qui percevra l'intégralité de la rémunération. Pour les autres éditeurs, bien vous avez une exploitation non exclusive d'une durée de 5 ans. Et donc non exclusive, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs éditeurs en même temps et que ces éditeurs ont chacun la faculté de fixer un prix. Et donc le prix peut être différent. Dans le cas où c'est l'éditeur d'origine ou celui qui a reçu les droits originaires, c'est évident qu'il n'y aura qu'un seul prix. Vous êtes auteur, vous pouvez à tout moment sortir du dispositif en faisant opposition. Et là, vous pouvez vous renseigner, on vous donne l'adresse. Vous pouvez, quand je dis à tout moment, c'est au-delà même des 6 mois. Vous avez d'autres cas où vous pouvez retirer l'œuvre. Vous pouvez la retirer avec votre éditeur pour l'exploiter différemment, mais vous pouvez aussi la retirer au-delà des 6 mois, simplement parce que vous jugez qu'elle porte atteinte à votre honneur ou à votre intégrité. Là encore, la SOFIA n'appréciera pas les données de la question, c'est vous-même qui jugez. Eh bien, nous enregistrerons les documents que vous nous aurez communiqués, l'attestation sur l'honneur que vous êtes bien l'auteur de ce livre, ou un co-auteur, il suffit que vous soyez un co-auteur sur 25, eh bien, le livre sera retiré. Et dans le cas où il est retiré avant, il est retiré immédiatement. Dans le cas où vous êtes un auteur, vous retirez par la suite. Et alors que l'exploitation a pu commencer, il y aura un certain délai pour évidemment le retirer de la diffusion, mais nous ferons nos meilleurs efforts pour que dans les 3, 4 ou 5 mois, il n'y ait plus de diffusion possible de cet ouvrage. La gestion de vos droits, vous avez repris vos droits, je le disais tout à l'heure, vous serez l'unique bénéficiaire de la rémunération perçue par SOFIA au titre de l'exploitation numérique de vos livres. Quant à l'exploitation, le livre est numérisé, il est communiqué au public et il est accessible moyennant rémunération par les réseaux de la librairie et des sites spécialisés, mais également grâce au système de consultation et de prêt mis en place par les bibliothèques publiques. Alors là, il y a un certain nombre de débats actuellement, je vais en parler tout à l'heure en discutant avec Dominique Lahari sur ces points, donc je vous ferai un point sur l'état des questions aujourd'hui. Quant à la commercialisation des premiers livres indisponibles, en tout cas avec le numérisateur qui est prévu, ça aura lieu courant 2015. Donc ça ne va pas se passer tout de suite. Voilà, c'est une très brève présentation. Il y aura d'autres questions. Et vous pouvez aussi nous interroger aux adresses que nous vous donnons. Il y a dans la salle la chargée de communication qui s'occupe des livres indisponibles, qui s'appelle Cécile Briand, et qui pourra également, si vous appelez Sophia, avoir des renseignements auprès d'elle. Voilà, merci, je vais rejoindre Dominique. Je pense, j'ai fait très vite, il peut y avoir des questions complémentaires, mais c'est juste un petit tableau rapide.
Merci de cette présentation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est nous tous qui pouvons faire l'animation là, de cette séance. Je fais un bref rappel malgré tout historique. Hein. Tout vient au départ en février 2011 d'un accord entre le Syndicat national de l'édition, SNE, la Société des gens de lettres, SGDL, le ministère de la Culture et de la Communication, MCC, et la Bibliothèque nationale de France, BNF, pour numériser les livres indisponibles, une certaine quantité de livres indisponibles du XXe siècle, reçus en dépôt légal par la BNF, donc de l'édition française. Cet accord, tel qu'il était conçu, était incompatible avec le code de la propriété intellectuelle en l'état. Et donc est intervenue le 1er mars 2002 une loi qui s'appelle « Relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles » qui réformait le code de la propriété intellectuelle pour permettre ce dispositif. Ça va faire l'objet de ma première question. On verra, pour ceux qui n'ont pas suivi ça de près, sur quoi précisément a été réformé le code. Et ensuite, donc là, février 2011, ensuite 1er mars 2012, et ensuite, c'est en quelque sorte une plante annuelle, le 21 mars 2013, il y a eu le même jour, agrément de la SOFIA et publication par la BNF, hein, du registre Relire. Tout est exact jusqu'ici ?
Oui, je...
Voilà. Alors, il y a des questions qui se posent du point de vue des ayants droit, auteurs et éditeurs, peut-être principalement auteurs, mais éditeurs aussi, ça c'est la première question. Ensuite, il y a des questions qui peuvent se poser du point de vue des bibliothèques ou des bibliothécaires. Ensuite, il y a des questions techniques que j'ai pointées. Si on ne les aborde pas, c'est un petit pense-bête, des questions d'ordre commercial et organisationnel. Et puis, finalement, on peut-être fera, du point de vue des lecteurs, qu'est-ce qui va se passer ? On le verra peut-être à la fin, on peut peut-être faire un résumé pour reposer ou reformuler ce qui se passe de leur point de vue, le lecteur étant bien sûr toujours le principal personnage, je pense, pour nous tous. Alors, du point de vue de l'auteur, éventuellement de l'éditeur, la première chose qui a été remarquée, évidemment, qui est très spectaculaire, c'est que l'accord entre les parties prenantes que j'ai décrites prévoyait ce qu'on dit, on appelle en anglais, et je ne sais pas s'il y a une formulation française, de mettre en place ce qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire...
Oui, c'est le retrait.
Comment ?
Le retrait.
Le retrait, voilà. Bon, mais disons que l'opt-out est utilisé par tout le monde. C'est-à-dire que, par principe, on va tout numériser. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous signalez. Ce qui a été remarqué, c'est ce qui est aussi très spectaculaire, c'était exactement le principe de la numérisation de masse entreprise par Google, à partir notamment des fonds d'un certain nombre de bibliothèques, ce qui a beaucoup été reproché, ce qui a été aussi dans les fondements de... du recours qui a été fait sur le plan américain par l'Association des auteurs et qui était aussi dans l'argumentaire du gouvernement français qui a aussi argumenté à l'époque en direction du tribunal américain compétent sur la numérisation de Google. Donc comment cette chose extraordinaire, une pratique reprochée à Google, tout d'un coup, par accord de certaines parties, rentre dans la loi française. Et est-ce bien légitime et n'est-ce pas là un premier élément de déconstruction du droit d'auteur tel qu'il s'est construit dans ce pays et dans d'autres aussi.
Alors, les choses se ressemblent de loin, mais elles sont complètement dissemblables de près. Tout d'abord, Google est une entreprise mondiale dont on connaît l'essor et le souci philanthropique, ne paye d'impôts nulle part. Et elle s'accapare des fonds sans demander rien à personne. Dans le cas où nous sommes, au contraire, il y a une loi. Rien n'est fait avant qu'une loi puisse modifier le droit existant. Ce n'est pas un règlement ultérieur entre les parties à la suite d'un contentieux. C'est une concertation entre un ensemble d'ayants droit, avec une visée patrimoniale, avec le souhait de conserver la maîtrise en France de l'ensemble de ces fonds et de se mettre d'accord entre les différentes parties et de les maîtriser ensemble. Le Book Registry de Google, il avait essayé, bon, il n'a pas eu lieu, mais c'était un Irlandais qui était nommé pour le gérer. Les ayants droit ne l'ont pas choisi. Dans le cas présent, que ce soit les éditeurs et les auteurs, ils ont choisi notre société qui gérait déjà la copie privée numérique et le droit de prêt en bibliothèque, parce qu'ils sont à parité à l'intérieur de... À parité, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de voix, il y a deux collèges, ils ne sont pas évidemment le même nombre, il y a 7000 auteurs d'un côté et il y a 200 éditeurs de l'autre, donc ce n'est pas exactement le même nombre. On représente à peu près 85% de l'édition française du côté des éditeurs, et peut-être un peu plus, en chiffre d'affaires. Donc, c'est ça. Et par ailleurs, il y a un contrôle qui est fait par l'État, par la Cour des comptes, enfin, c'est tout à fait une autre histoire. Maintenant, les suggestions particulières qui viennent du retrait... Je pense que dans un objectif patrimonial, enfin, c'est la loi républicaine, c'est le principe d'une loi qui poursuit un intérêt général et elle peut imposer des suggestions particulières à un ensemble de personnes. Ce serait problématique si la plupart des gens qui sont concernés étaient vent debout contre ça. Or, c'est faux. Il y a très peu d'ayants droit, on cite toujours les mêmes, ils sont 5 ou 6, ils sont un petit groupe au CERF. Nous avons 7000 auteurs, nous avons envoyé une information à ces 7000 auteurs. Nous en avons eu deux qui nous ont dit qu'ils étaient hostiles au projet, complètement. Ce n'est pas dire qu'il n'y ait pas de retrait, c'est une chose différente qu'il y ait des retraits. On peut être dans le projet et souhaiter pour certaines de ses œuvres se retirer ou apprécier le dispositif. Donc, je crois qu'il faut rapporter les choses à leur juste mesure. Et par ailleurs, je crois que c'est une expérience, cette expérience française. Moi, je m'intéresse beaucoup au domaine européen. Je suis très souvent à Bruxelles pour... différentes raisons. Et depuis très longtemps, je représentais des intérêts à Bruxelles dans ma carrière. Ce projet est vraiment très suivi par les autres pays, par l'Allemagne notamment. Et encore une fois, on est un peu en pointe avec ce genre de solutions. Ce sont des solutions qui visent à préserver le patrimoine et à contrôler les conditions de la diffusion. Et surtout, à ne pas permettre, comme le Duchin l'a jugé d'ailleurs, à un opérateur d'avoir un monopole sur la diffusion. Donc je crois qu'on ne peut pas du tout confondre les deux solutions. Elles n'ont rien à voir à partir de ce petit prisme. En réalité, c'est une apparence. Mais ce qu'il y a derrière est entièrement différent. La philosophie est entièrement différente.
Alors, que les acteurs soient différents, on parlait là d'un géant industriel qui se débrouille pour ne payer à peu près aucun impôt, donc ça c'est une chose, mais malgré tout le principe, là il était qu'à parler du principe, ce principe, c'est ça qui a fait choc, qui fait une rupture dans la tradition du monopole, le droit d'auteur au titre patrimonial c'est un monopole, de diffusion hein, que laisse l'auteur qu'il peut céder à l'éditeur.
Pardon, mais il l'a toujours. C'est-à-dire qu'en réalité, il a un acte positif à accomplir, c'est le retrait, mais le droit n'est pas confié, ça n'est pas une licence légale. C'est une licence obligatoire étendue, mais on peut s'en retirer. Donc, à tout moment, l'auteur peut se retirer de ce dispositif. Donc, c'est quand même... Il est titulaire du droit. Il n'y a que l'exercice qui est confié à la société. Donc il n'y a pas d'atteinte au droit d'auteur en tant que tel.
Alors il peut se retirer là, on lui demande quelque temps, il n'est pas forcément au courant. On a dit que l'auteur pouvait être âgé, etc. Enfin, il y a quelques commentaires là-dessus qui se mettaient du point de vue de l'auteur. Il a des démarches à faire, il a une démarche à faire par titre. Hein. S'il a plusieurs titres, il faut qu'il recommence chaque fois.
Non, ça c'est en train de se...
C'est en train de se...
Oui, il y aura... C'est simplement au début, le système a été développé comme il a pu, mais évidemment qu'il va être il y a de plus en plus de facilités qui vont être offertes. À l'auteur.
Mais sinon, du point de vue des auteurs, et c'est ce qui a valu... Alors, vous parliez, vous disiez au cerf, c'est-à-dire le droit du cerf, vous parliez
de ça. Le droit du cerf, oui.
Comment ?
Oui, c'est le droit du cerf.
Alors, qui est le droit du cerf ? C'est un groupe d'auteurs. Ils se sont appelés le droit du cerf parce que le cerf est attaché à la terre. Hein. Donc, du point de vue de l'auteur qui se découvrait attaché à l'éditeur. Pourquoi ? Parce que, certes, l'auteur cède son monopole de diffusion très souvent par contrat à l'éditeur, mais il y a le principe de l'épuisement de ce droit quand l'éditeur n'exploite plus. Et donc, dans des conditions qui sont un petit peu formalisées, évidemment, quand il se trouve que l'éditeur n'exploite plus, l'auteur est libéré de son lien avec son éditeur. Et là, ce dispositif rattache à nouveau pour l'éternité, en quelque sorte, c'était le problématique de droit du cerf, rattache l'auteur à son éditeur qui pourtant n'avait plus rien fait pour exploiter l'œuvre sur le plan physique.
Ce qui n'est pas vrai, Dominique, parce que la loi a pris soin de laisser le droit positif en l'état, donc elle ne porte pas atteinte aux règles d'épuisement. On ne peut pas alléguer l'indisponibilité dans le cadre d'un contentieux. La procédure est toujours la même. On doit faire faire deux commandes d'un ouvrage en l'espace de 3 mois, pas recommandé, ne pas pouvoir être servi, et on a à ce moment-là une restitution automatique des droits. Donc on n'a même pas besoin de passer par un procès. On les récupère, on aura la preuve. Donc il n'y a rien qui est porté atteinte à cela. Et la présence dans le dispositif est complètement indépendante de l'exercice du droit, cet exercice se poursuivant dans les mêmes conditions. La seule faculté qu'ont les auteurs, et moi j'en vois quand même beaucoup professionnellement, ils sont heureux d'avoir au moins un certain nombre de leurs livres qui ne sont plus accessibles, à nouveau disponibles pour les amateurs, et même leur propre famille, leur cercle d'amis. Donc ils sont très contents de ça. Donc l'immense majorité des auteurs est favorable. Nous, les remarques que nous recevons, c'est quand est-ce qu'on touchera quelque chose? Voilà la seule question qui leur est posée. Donc ils veulent savoir à partir de quand, puisque c'est des droits protégés, etc., quand est-ce qu'ils toucheront des droits d'auteur? C'est ça la question. Donc il y a effectivement des gens qui sont au vent debout contre cela. C'est vrai pour beaucoup de droits, mais on ne peut pas faire... Je crois franchement que cette loi avait un impératif d'intérêt général, et s'il n'y avait pas eu ça, alors on s'exposait à une numérisation massive ou à la mise en ligne massive d'ouvrages qui ne seraient pas protégés par le droit. Et il serait arrivé à ces livres exactement la même chose que ce qui est arrivé à la musique, faute d'initiative.
Alors là, on s'est surtout placé du point de vue de l'auteur. Mais là, par exemple, l'éditeur, on dit qu'il a 2 ans, s'il s'oppose, il a 2 ans pour prouver qu'il exploite bien le livre. Là aussi, c'est une liberté en moins peut-être pour l'éditeur, parce qu'il pouvait, il avait en quelque sorte la liberté de ne plus exploiter. Et là, on lui demande s'il s'oppose au processus, là, s'il ne veut pas être numérisé, il doit prouver qu'il exploite toujours.
Oui,
donc on crée une sorte d'obligation d'exploitation. Qui n'existait pas avant et qui,
pourquoi,
en fait, libérait l'auteur à ce moment-là.
C'est pour protéger l'auteur. Le code de la propriété littéraire, enfin intellectuelle, mais dans sa partie littéraire, la propriété littéraire, essaie de préserver ce qu'on appelle la partie faible, c'est-à-dire l'auteur. Et l'auteur, le système enfin, mis en place, vise à rendre disponible son œuvre. Il ne s'agit pas que son éditeur d'origine fasse une opposition, sorte du dispositif et n'exploite pas. Ce serait à son préjudice. Et s'il doit le faire, il sort du dispositif, donc il ne bénéficie pas des prérogatives que donne le dispositif dans la gestion des droits, et il doit avoir les accords avec l'auteur, les avenants, ou éventuellement il a déjà un contrat pour les contrats relativement récents qui prévoit les conditions d'exploitation. Autrement, il doit faire un accord avec l'auteur. S'il n'y parvient pas dans le délai de 2 ans, le livre en cause revient dans le dispositif. Donc il faut qu'il nous rapporte la preuve de cette exploitation en accord avec l'auteur. Autrement, le livre revient dans le dispositif. Donc l'éditeur, d'une certaine façon, ne peut exploiter que conformément à la loi et dans le cadre du contrat s'il n'est plus dans le dispositif, ce qui est tout à fait légitime.
Alors, est-ce qu'il y a des questions, des interventions sur ce point avant qu'on passe
au
point de vue des bibliothèques, voilà, dans la salle. Oui.
Sous quelle forme se fait la mise à disposition du public du livre? Numérique, papier, quel format, etc. Et l'autre question que j'ai, c'est de savoir, vous numérisez petit à petit, hein, donc vous choisissez des livres, et comment sont choisis ces livres, dans quel ordre, quelles sont les priorités?
Alors, il y a plusieurs questions, dont aucune ne me concerne. Il y en a une sur laquelle me concerne, parce que nous gérons uniquement les droits, nous ne procédons pas à la numérisation. Mais la société de projet qui doit procéder à la numérisation a prévu de numériser avec une définition élevée. On parle aujourd'hui de 400 DPI, donc ça donnerait finalement une image très proche du livre lui-même, notamment pour le noir, hein, le livre où il y a essentiellement du texte. Et par ailleurs, il y aurait un format EPUB 3 pour l'instant, et puis d'autres formats possibles. Enfin, s'adaptera à la demande des licenciés eux-mêmes. Mais ce sera la plus haute définition
existants sur le marché, simplement parce que ça va très vite et il s'agit d'offrir pendant toute une durée des livres où on ne voit pas les pouces comme on a vu chez Google justement. On voyait même les pouces des types qui étaient en train de photocopier le truc. Donc les choses seront faites quand même d'une façon particulièrement respectueuse, avec des ajouts de métadonnées qui permettront, et de données bibliographiques, de façon à pouvoir retrouver, à ce que ce soit complètement exploitable, notamment par les bibliothèques ou par les chercheurs, de façon convenable. Quant à au comité scientifique qui détermine les listes, il y a ici Gilda Silien qui est à la BNF et qui est plus à même que moi de répondre à la façon dont travaille ce comité. S'il y avait un baladeur, ce serait bien. Vous venez ici pour donner une réponse.
Oui, il y a un micro. Oui.
Sur les critères de sélection des ouvrages pour être dans le registre, hein, qui ne sont pas les critères de numérisation, même si c'est l'étape d'après. Donc la loi et puis le décret qui a suivi ont mis en place un comité scientifique qui est composé à parité de représentants des auteurs et de représentants des éditeurs et d'un représentant de la BNF qui se trouve être moi. Et donc ce comité...
d'un représentant de la société agréée également.
Tout à fait.
Mais nous n'avons pas de droit de vote.
Voilà. néanmoins contribuer à ces travaux. Pour la constitution du premier registre qui est en ligne, concrètement, ça rappelle des travaux de sélection d'un fonds, tout simplement. Les critères qui ont été discutés, sans rentrer dans le détail, sont d'abord des critères chronologiques, c'est-à-dire est-ce qu'on s'attaquait aux parties anciennes ou aux parties récentes du fonds. Une des raisons pour lesquelles la plupart des ouvrages qui sont publiés dans le registre sont de périodes assez récentes, c'est tout simplement pour des raisons pratiques, parce qu'ils étaient dotés d'un ISBN et qu'on disposait d'une information sur leur disponibilité dans la base d'Electre, et qu'il était donc plus facile dans ces délais de travailler sur cette période-là. Deuxième point d'entrée, c'était thématique. Donc là, c'est des orientations qui ont été données par ce comité de travailler sur les disciplines littérature, sciences humaines et sociales, histoire, qui étaient vues comme plus intéressantes, qui a un plus gros potentiel d'usage. Et puis après, on a affiné avec les moyens du bord pour enlever de ces premiers résultats des ouvrages qui paraissaient vraiment dépassés, obsolètes. Il en est resté un certain nombre, nous l'a fait remarquer. Voilà, en gros, un comité qui avance progressivement avec des critères chronologiques, thématiques, et également des questions qui arrivent en avançant sur aussi le type d'exploitation qui pourra être faite par rapport à la composition du document. Donc récemment, notamment, nous avons eu une discussion et auditionné un représentant des auteurs de bandes dessinées, en voyant bien que pour les ouvrages qui présentaient certaines caractéristiques, soit d'un point de vue juridique, soit du point de vue de leur composition, de leur fabrication et des droits associés à cette composition, il y avait des difficultés particulières. Alors, je ne rentre pas plus dans le détail, mais c'est le dispositif qui est mis en place pour constituer le et les corpus. Pardon ? La commande qu'on a, c'est de publier 60 000 titres dans le registre par an. En tout cas, c'est ce que nous avons fait cette première année. Peut-être que ces volumes seront affinés ou redéfinis pour les salves suivantes en fonction de l'évolution du projet.
Donc, c'est donc une sélection, c'est à peu près quantifié, 500 000 sur un corpus de combien ? Ça représente à peu près, non ? L'obligation de sélection que vous êtes faite, puisque vous visez 500 000 au total.
Oui, sur 10 ans. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 48% de littérature générale, et le reste se divise avec les sciences humaines et l'histoire, pour un peu plus de 20% chacune, puis le reste, c'est du non classé, quoi. Donc, voilà. Ce qu'on a, c'est autre. Ce qu'on a exclu, tout de même, c'est les livres dont la première publication n'a pas eu lieu en France, et on a exclu les traductions pour des raisons de droit, puisque les éditions originales de ces livres sont parues à l'étranger. Voilà. Quand je dis on, ce n'est pas moi, c'est le travail qui a été fait par la Bibliothèque nationale de France. Alors, autre question, Vache. Alors, allons-y.
Non, bah, vous êtes là dans ce rôle.
Oui, moi, mais vous pouvez y aller parce que.
Moi, j'en ai, oui, mais.
Allez-y.
Je regardais. Alors.
Suivez votre. Votre chemin critique et mon chemin
est-ce
de
qu'il y a, est-ce qu'il y a des risques de recours juridiques, étant donné les remarques qui ont été faites sur des questions de droit?
Alors,
y en a-t-il? Est-ce qu'il y a un risque, etc.
Voilà. Moi, je ne peux pas répondre réellement à cette question. Nous n'avons pas connaissance du mémoire qui a été déposé au Conseil d'État. On peut dire que le ministère avait fait ses meilleurs offices pour vérifier la constitutionnalité de cette loi. Maintenant, il appartient aux sages du Palais Royal de dire ce qu'ils en pensent. Ce que je peux vous dire, c'est que comme nous sommes mis en cause en tant que SOFIA sur le site qui reprend l'essentiel des éléments du mémoire, nous ferons une intervention volontaire pour défendre ce dispositif. C'est tout ce que je peux vous dire, mais de mon point de vue, j'ai pas nécessairement un point de vue d'expert sur cette question, mais ça fait un bout de temps que je me penche là-dessus. Je pense que le risque est extrêmement faible. J'espère que si le Conseil finalement statue pour la légalité, au moins un certain nombre de critiques tomberont. C'est même une bonne chose. Dans le débat démocratique, c'est très bien qu'il y ait des recours. Enfin, ça fait partie de la vie démocratique. S'il n'y a pas de recours, on serait dans une dictature. Donc, il est tout à fait normal que les gens puissent, qui ne sont pas d'accord. La question n'est pas que tout le monde soit d'accord. Bien sûr que pour aucune loi et dans la vie démocratique, personne n'est. Il n'y a pas d'unanimité. Donc, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils exercent les voies de recours. Et puis, il y a des décisions judiciaires, et puis ça s'applique, voilà, c'est tout. Donc, je pense que c'est la seule chose qu'on puisse dire. On attend, sereinement, en tout cas, moi, j'attends très sereinement la décision.
Alors, si on se place du point de vue des bibliothèques, il y a trois remarques de fond, et puis ensuite, il va y avoir des questions d'exécution, disponibilité, etc. Dans la pratique, ça va se passer pour nous, pour y avoir accès. Donc, la première remarque, c'est que, alors évidemment, il s'agit essentiellement de la Bibliothèque nationale de France, mais heureusement qu'il y a des bibliothèques, et les bibliothèques, en quelque sorte, servent de gisement pour la recommercialisation, pour une remise sur le marché. Hein, et donc, voilà, c'est l'utilisation des bibliothèques pour une remise sur le marché pour des ayants droit.
Bon, alors, je ne sais pas si c'est une critique ou un compliment qu'il faut adresser.
C'est un constat.
Oui, c'est un constat. Moi, je trouve que c'est un constat heureux. C'est un constat heureux parce que dans une politique, c'est une politique de l'État qui a souhaité cette préservation patrimoniale. Ce sont deux livres qui ont fait l'objet d'un dépôt légal. Donc, bon, il peut y avoir un certain nombre de livres qui n'ont pas été publiés en France et qui font l'objet d'un dépôt légal. La France, c'est la France telle qu'elle était à la date de publication. Donc, du temps où nous avions des colonies, entre guillemets, moi je suis né au Congo-Brazzaville, par exemple, les livres qui sont parus à ce moment-là, ce sont des livres français. Donc, c'est la France telle qu'elle était constituée. L'Algérie était un département français jusqu'en 1962. Les livres publiés en Algérie sont considérés comme français pendant cette période. Donc, voilà. Et donc, la bibliothèque a ce gisement. Quand on a l'ambition de moissonner 500 000 livres, notamment des livres indisponibles, il semble quelque peu curieux d'aller demander à des éditeurs qui ont pu disparaître ou des éditeurs dont on ne sait pas plus où ils se trouvent. Les marques ont été reprises, ont pu être changées. Il faudrait avoir un historique complet de l'histoire du livre. Donc, ça rend les choses extrêmement compliquées. Il faut retrouver les livres. Il y a des coûts de gestion qui sont considérables parce qu'il faut les envoyer. Il faut les envoyer à un endroit qui soit répertorié, etc. Donc, finalement, techniquement, ce n'était pas possible d'avoir cette ambition-là. Donc, en procédant de cette façon libre. Je crois que c'était très bien et c'est une des utilités de cette disposition qui date de François Ier, de rendre accessibles des livres indisponibles et de bénéficier aussi des conditions de catalogage et de conservation que la Bibliothèque nationale peut avoir. Moi, je trouve que c'est une contribution tout à fait louable.
Alors, à cette remarque, on peut associer la seconde, c'est que la puissance publique a fait l'effort de recueillir, de conserver, d'entretenir, d'identifier, etc. Et d'autres éléments de puissance publique, universités, municipalités, intercommunalités, vont devoir repayer cet investissement public pour pouvoir avoir accès à ces livres indisponibles numérisés. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, si vous voulez, de compensation, juste compensation pour des usages collectifs à partir de cet effort collectif qui a été fait et dont on profite.
Bon. Oui, c'est vrai que c'est une critique qui est articulée. Elle est évidemment principalement articulée dans le milieu des bibliothèques, mais pas seulement. Il faut voir les choses sous l'angle. D'abord, il ne s'agit pas d'un financement à fond perdu. Ce serait trop simple. Donc, la grande difficulté qu'il y a, c'est de s'assurer de la viabilité de ce système pour permettre le remboursement. Le financement est en large partie, doit être pris en charge par le commissariat général à l'investissement, donc l'emprunt d'avenir, qui est remboursable. Donc il y a juste une mise de fonds, enfin il y a une mise de fonds initiale avec un ensemble d'hypothèses d'exploitation. C'est pour ça que c'est naturellement payant, parce qu'il faut le rembourser, ça n'est pas de l'argent à fond perdu. Donc ça, c'est tout de même un point qui me semble tout à fait décisif. Autrement, bon, le deuxième point sur la gratuité, c'est que si on avait remis ces livres gratuitement dans les bibliothèques pour un usage libre et complet, ça peut se comprendre, mais c'était la mort du droit de la propriété littéraire instantanément. C'est-à-dire que dès lors qu'un livre devenait indisponible, il devenait gratuit dans l'ensemble des bibliothèques, il n'y avait plus d'exploitation possible. Et donc, en fait, on mettait à bas l'échéance des 70 ans après la mort de l'auteur, donc la durée de la propriété littéraire. Et cette gratuité étendue rendait les choses extrêmement compliquées. Donc, je pense que la règle est qu'il y ait un financement, que ce financement soit remboursé, et les bibliothèques bénéficieront de modalités particulières pour pouvoir mettre à disposition du public ces ouvrages. Ces livres seront accessibles sur Gallica 2, très certainement avec une faculté de feuilletage, et également dans les bibliothèques avec des bouquets étendus et des conditions particulières qui ne seront pas celles du marché, bien entendu. Je vois que monsieur pose ce... Vous avez apparemment... vous êtes scandalisé par quelque chose. Alors, vous allez vous exprimer, peut-être. Je ne sais pas, je peux...
Oui, bien, bien sûr, tout à fait.
J'ai vu...
La parole est à qui la prend.
Bien sûr.
Oui, bonjour, Sylvain Mercier. Je suis assez scandalisé, effectivement, par les propos que vous venez de tenir. Notamment sur le fait que la mise à disposition gratuite dans une bibliothèque d'un livre qui aurait été donc numérisé dans ce cadre serait un manque à gagner pour des éditeurs souhaitant l'exploiter à nouveau.
C'est pas ce que j'ai dit.
C'est ce que vous avez dit.
Non, je n'ai pas dit que c'était un manque à gagner pour les éditeurs.
Si, vous avez dit que c'est la mort de la propriété intellectuelle et artistique.
Je n'ai pas parlé des conditions d'exploitation. Ça n'est pas la même chose.
Écoutez,
c'est aussi de la propriété des auteurs. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça.
Il faudra nous expliquer alors pourquoi la directive européenne avait, sur le même sujet, recommandé un accès gratuit dans toutes les bibliothèques, alors même que le dispositif français qui a été adopté est beaucoup plus défavorable aux bibliothèques, qui vont se retrouver en situation, comme l'a dit Dominique Lahari, de payer deux fois des choses qui ont été numérisées. Donc l'État va repayer à l'État dans une situation qui est totalement absurde et qui est bien plus cadenassée que les objectifs de mise à disposition du patrimoine culturel qui étaient ceux de la directive européenne. Donc on ne peut pas dire que ce dispositif soit favorable aux bibliothèques, ni d'ailleurs qu'il soit favorable aux auteurs, malgré ce que vous nous avez raconté. Il y a énormément d'auteurs qui considèrent, et le droit du cerf en particulier avec de très bons arguments juridiques, que ce dispositif est une machine à transformer un droit d'auteur en droit d'éditeur en vue d'une exploitation commerciale, et que la charge de la preuve incombant aux auteurs pose de gros problèmes, justement parce que le délai est très court et parce que ce dispositif qui n'aurait pas été, qui n'est évidemment pas entièrement critiquable dans son esprit, dans ses modalités, est totalement déséquilibré du côté des éditeurs, au détriment des auteurs et au détriment des bibliothèques. Et donc, je trouve, et l'IABD a eu des positions sur le sujet comme d'autres organisations, qu'il faut un petit peu rétablir les choses et ne pas présenter tout ça dans le monde des bisounours.
Non, monsieur, je vais répondre à ce que vous dites. Ce que vous dites est une opinion. Vous dites tout d'abord que les arguments du droit du cerf sont de très bons arguments juridiques. Nous verrons ce que le Conseil d'État en dira. Donc ça, vous ne pouvez pas le dire d'avance. Si jamais le Conseil d'État rejetait ces arguments, et nous en avons lu qui était particulièrement faible au plan juridique dans ce que nous en connaissons. Donc nous verrons bien, nous ferons nous-mêmes, avec notre avocat, les observations que nous souhaitons déposer au Conseil d'État, mais nous ne pouvons pas préjuger la décision qu'il prendra et dire que ces arguments sont valables. Par ailleurs, vous dites que c'est payé deux fois, c'est faux, je viens de vous expliquer que ces fonds sont remboursables et que c'est pour ça qu'il y a ce dispositif. Donc, bon, je n'irai pas plus loin. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Je suis en effet partisan de ce dispositif. Je suis, autrement, je n'aurais pas ma place comme directeur de la SOFIA ayant proposé qu'on s'en occupe. Donc, je ne vois pas pourquoi je l'aurais fait. Je l'ai fait parce que je trouve que c'est un heureux dispositif qui permet de préserver un équilibre dans le droit d'auteur. Et les auteurs sont vraiment préservés puisque eux peuvent sortir tout le temps, ce qui n'est pas le cas des éditeurs. Donc je ne vois pas où est votre critique, d'autant moins que les auteurs peuvent toujours récupérer intégralement leurs droits avec les procédures existantes dans le code. Ça ne préjudicie pas à leurs droits. Donc ce que vous dites me paraît faux, légalement. Voilà, donc il y a une opposition frontale entre nous sur ce plan. C'est tout ce que je peux vous dire.
Alors, il manquait, je ne sais pas si on va arriver à tenir le temps, il manquait un élément dans ma présentation liminaire. Dans ma chronologie, c'est le grand emprunt, effectivement, les emprunts d'avenir, parce que c'est ce dispositif qui est utilisé et qu'il y a emprunt, il y a remboursement. Et donc, modèle économique.
Et donc, du taux d'intérêt.
Et donc,
c'est un emprunt qui n'est pas gratuit.
Voilà. Donc on est dans un dispositif où l'argent doit revenir. Il y a un investissement qui est fait pour numériser, mais ce n'est pas de l'argent public qui est utilisé pour une œuvre positive, c'est quelque chose qui doit être remboursé donc par un modèle économique, et donc par une commercialisation. La deuxième chose, c'est que ce dont a parlé Silver sur la directive européenne, ça concerne une partie, hein, ce sont les œuvres orphelines.
Non, il a parlé des recommandations.
Les recommandations.
La directive, c'est œuvres orphelines, mais il y a eu
Ah oui, les recommandations, voilà, c'est ça. Et il y a aussi les œuvres orphelines, sur lesquelles, au niveau européen, se préparait...
Il y a une directive, elle
se préparait à ce moment-là, elle est passée maintenant. Le fait que les bibliothèques pourraient... accéder gratuitement aux œuvres orphelines ou les diffuser gratuitement sous réserve de faire au préalable ce qu'on appelle la recherche diligente, une recherche qui prouve que, bien sûr, on n'a pas trouvé les ayants droit. Tandis que là, ce système se trouve court-circuité en quelque sorte, puisque les œuvres orphelines, c'est vous qui allez le faire, la recherche diligente.
Tout d'abord, la directive prévoit que s'il y a un dispositif national existant, c'est ce dispositif qui s'applique. C'est le cas dans le cas français. Par ailleurs, une œuvre est orpheline à partir du moment où on ne retrouve pas ses ayants droit. Donc nous-mêmes, à partir du moment où nous aurons des droits à distribuer, nous rechercherons en effet les ayants droit. On pense aujourd'hui, rien que pour les travaux que nous avons accomplis par nous-mêmes, volontairement, sur le, la première liste, nous en avons déjà retrouvé 60% des endroits. Et on est au tout début du travail. Donc on devrait quand même arriver à compléter ça très largement. Et évidemment, quand on ne trouvera pas les ayants droit, ces fonds seront conservés pendant 10 ans. Et au-delà de 10 ans, ces fonds seront utilisés à des actions culturelles sur le modèle à peu près de ce qu'on trouve pour le CAR copie privée. Les diligences ne seront pas compliquées par nous, mais également par les autres sociétés du secteur avec lesquelles nous avons des accords, que ce soit la SCAM, la SACD, la DAGP pour les images ou la CEF pour les photos, etc. Donc il y a un ensemble d'accords qui complètent ce dispositif. Et puis pour faire la recherche diligente et sérieuse, nous avons un accord avec la Société des gens de lettres, qui a elle-même une base de données auteurs, qu'elle est en train de travailler depuis plusieurs années d'une manière intensive, et où les recherches manuelles seront opérées. Les recherches manuelles, c'est la recherche, le téléphone, l'envoi de lettres à des notaires, etc. Donc tout ça sera fait en temps et en heure. Évidemment, on ne pourra pas le faire tant qu'on n'a pas de droit à verser, parce que si l'œuvre, elle peut être numérisée, elle peut être mise en ligne, mais elle peut ne pas être consultée. Sur 500 000 œuvres, vous avez l'habitude dans les bibliothèques d'avoir toutes sortes de livres qui ne sortent jamais, même quand vous avez des acquisitions. Vous mettez un bouquin en rayon et il ne sortira jamais. Bon, ben, ça arrivera également dans ce cas-là.
Alors maintenant, vous avez dit qu'il y aurait des conditions particulières pour les bibliothèques, différentes de l'accès par les particuliers. Alors qu'en sera-t-il? Qu'est-ce qui est prévu? Énormément de modèles possibles, aussi bien techniques que tarifaires, pour l'accès des bibliothèques aux ressources électroniques. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ce cadre-là?
Alors, il y a une double difficulté pour moi d'y répondre. Je vais vous donner l'état de la question aujourd'hui. La première, c'est que ça ne m'appartient pas. Simplement, les modes d'exploitation sont prévus par les licences que nous octroyons. Mais nous ne gérons pas ni les bases ultérieures et ni la commercialisation, puisque le principe de la licence, c'est celui qui a la licence. Donc nous prévoirons dans la licence qu'un opérateur, qui sera sans doute la société de projet, proposera des bouquets dans des conditions particulières aux bibliothèques. Ce qui nous semble utile aussi, c'est que ces ressources soient accessibles par Gallica 2 dans les conditions où fonctionne Gallica 2. Tout ça est en cours d'élaboration. On le voit bien, les premières licences et la première exploitation ayant lieu en 2015, on a encore le temps réfléchir à ces questions et de prévoir un ensemble d'utilisations. Par ailleurs, les bibliothèques pourront proposer certains modes d'utilisation, pour nous écrire, pour nous dire voilà, nous préférerions que ce soit comme ça, nous les étudierons pour produire un ensemble d'avenants ou les inclure dans les licences ultérieures que nous ferons pour prévoir un ensemble d'utilisation, mais pas enfin les prévoir au sens des modalités, puisque nous-mêmes, nous allons, dans le cadre de la licence, définir les utilisations possibles dans le cadre de la licence. Et notamment, puisque la loi s'y oppose, c'est pas par le biais de cette loi que sera réglée l'impression à la demande. L'impression à la demande ne pourra pas avoir lieu, donc la reproduction papier n'est pas non plus incluse dans le périmètre de la loi, n'est pas réglée par ça. Donc nous mettrons des clauses limitatives en ce sens-là, qui sont des clauses d'ordre public en fait, mais qui sont des rappels placés dans les licences indiquant que la loi n'autorise pas ça. Donc on devrait normalement, dans le cadre d'un contrat, on n'a pas à reproduire des clauses d'ordre public, mais dans ce cas-là, nous prendrons les précautions qui s'imposent. En tout cas, sachez que l'idée même d'avoir des bouquets pour les bibliothèques est essentielle, d'avoir des conditions matérielles particulières, donc nettement plus favorables, est essentielle aussi, et que pour acquérir ces données, ce que nous privilégions, c'est que ces marchés continuent de passer par leurs fournisseurs de livres actuels, enfin les bénéficiaires des marchés publics. Donc il n'y aura pas de candidature directe pour cela par les éditeurs en direct. C'est le réseau de la librairie qui sera privilégié à 100%. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, mais on a été agréé que le 21 mars, on ne peut pas avoir tout traité.
et notamment pour les licences qui elles-mêmes ne peuvent pas prévoir toutes les formes d'utilisation dans leur première version, mais qui comporteront des adjonctions.
Alors, vous avez fait allusion à deux reprises de la société de gestion. Alors, qu'est-ce que c'est que cette société de gestion ?
Non, la société de projet.
De projet, pardon. Qu'est-ce que c'est que cette société de projet ? Comment elle était constituée ? Depuis quand ? Et quel est son rôle ?
D'abord, elle n'est pas constituée. C'est une société de projet et il faut que son tour de table soit fixé. Et vous parliez d'argent public, mais les conditions dans lesquelles le CGI examine l'apport des financements est particulièrement drastique. Donc, il y a encore des discussions sur un certain nombre de points.
CGI, Commissariat Général à l'Investissement.
Oui, c'est ça.
Lié au grand emprunt. Voilà.
Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il fasse particulièrement des fleurs à ce projet. Et il y a donc des discussions qui sont particulièrement nourries avec cet apporteur de fonds pour le prêt participatif qu'il veut accorder. Donc il n'y a pas, ça n'est pas ni le pays des bisounours, comme ça nous a été dit tout à l'heure, ni un chemin pavé de roses. Donc ces choses-là se mettront en place, et c'est quand le tour de table sera complètement constitué, cette société sera constituée comme une filiale du cercle de la librairie qui réunit des éditeurs et des libraires, qui a les moyens de la constituer, parce que le cercle de la librairie dispose d'un certain nombre de moyens également.
Alors, est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Nous en arrivons en principe, nous avons dépassé de 5 minutes, mais...
Mais on a le temps parce qu'il n'y a rien après.
Ah bon ? Le micro ?
J'aurais juste voulu savoir si pour les livres dont le dépôt légal a été en premier déposé à l'étranger ou pour les traductions, c'est vraiment un obstacle incontournable ou c'est quelque chose qui pourra se faire par la suite ?
Alors, il y a une discussion sur ce point au sein du comité scientifique. J'ai aussi un point de vue. J'ai été éditeur pendant 20 ans et j'ai un doctorat de droit. J'ai dirigé les éditions Dalloz. Je me suis un peu informé sur ces questions. Et comme éditeur, j'ai le sentiment qu'il y a un droit ab initio qui est détenu par l'éditeur d'origine. D'ailleurs, s'il est mécontent d'une traduction, il peut confier une deuxième édition à quelqu'un d'autre. Et souvent, les traductions ne sont confiées que pour une durée déterminée ou un tirage déterminé. Elles ne sont pas confiées pour la durée de la propriété littéraire. D'autant moins qu'elles viennent de pays où règne le copyright et où... Parfois, les éditeurs ne disposent pas de ces droits. C'est les auteurs qui les gèrent directement et qui les accordent ponctuellement pour un certain nombre de choses. Donc, il ne s'agit pas, il y a un principe de territorialité, qu'on méprise les droits des auteurs d'origine. Donc, il pourrait y avoir des accords bilatéraux, probablement, ou enfin, il y a des extensions qui sont possibles, mais qui ne seront possibles que par des apports en gestion, de mon point de vue. Il faut qu'à ce moment-là, ce soit réglé de cette façon. Pour les œuvres qui ont été, dont la première édition, l'édition originale, dans la langue originale, est parue à l'étranger. En revanche, un livre en anglais qui serait paru à Paris, chez un éditeur parisien, ce qui arrive, hein, il y a des éditions bilingues, ou d'autres, même des éditions en langue régionale, ou d'autres, là, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas le problème de la langue, c'est le problème de la territorialité du droit. Et après, à l'inverse, il y a le principe de la préférence nationale dans le cadre international, et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'auteur étranger peut demander à bénéficier au même titre que l'auteur national, des mêmes dispositions. Donc lui peut venir nous apporter son propre livre, sa traduction, pour en bénéficier. Le principe de la préférence nationale joue en sa faveur, mais pas en la faveur du dispositif vis-à-vis de l'étranger. C'est lui qui doit venir chez nous. Voilà.
Autres interventions ? On a le temps, mais j'ai une remarque en tant qu'ancien membre du bureau de l'ABF, c'est que, puisqu'on parle de modèle économique, le salon professionnel fait partie du modèle économique d'un congrès et qu'il repose sur un juste équilibre des sessions et des temps libres.
D'accord.
Voilà. Ça fait aussi généralité. Vous êtes aussi
la commercialité.
Exposant. Je parle à chaque fois d'un point de vue. Donc là, du point de vue, effectivement, d'un congrès, il n'existe pas sans un salon.
Vous avez des points techniques aussi ?
Est-ce qu'il y a des points est-ce que c'est extrêmement clair les conditions bon, sachant qu'on ne peut pas encore...
Il y aura des précisions qui sont données. Hein.
Voilà. Bon. Sur le plan... je voulais dire, du point de vue du lecteur, bon, puisque ce sont des œuvres qui ne lui étaient pas accessibles, tout d'un coup, elles vont l'être, petit à petit, sous des formes qu'on a dites. Comment est-ce qu'il va savoir que ces ouvrages sont devenus disponibles et comment est-ce qu'il va le savoir, comment il peut y avoir accès, hein. Là, on se place vraiment du point de vue du lecteur.
Oui, il le saura déjà s'il se rend sur Gallica, puisque l'intégralité des œuvres disponibles figurera dans Gallica. Voilà. Après, il y a les questions de renvoi pour les acquisitions. Ça, c'est des points qui ne sont pas nécessairement réglés. La société de projet n'a pas vocation à faire elle-même du commerce. Alors, est-ce qu'elle pourra permettre de choisir dans le rayon du lecteur, lui offrir un ensemble de libraires auprès de qui il pourra faire cette acquisition? Il y a un ensemble de points qui ne sont pas réglés aujourd'hui, qui nécessiteront des développements, qui ne sont peut-être pas mis en place en même temps, etc. Mais tout l'effort, c'est que ça se passe comme pour l'ensemble des e-books existants. Il est évident que c'est des ouvrages assez anciens et dont les prix seront sans doute inférieurs aux nouveautés, par principe. Enfin, donc il y a... Et évidemment, ils seront variables. Hein. Un bouquin de 25 pages ou 40 pages, ça existe. Hein. Les quatre lettres à un ami allemand d'Albert Camus paraissent dans un petit fascicule. Et puis, vous avez des bouquins de 600 pages en sciences humaines. Ça n'a pas nécessairement le même prix. Mais enfin, on tiendra compte de l'ancienneté des livres. Voilà.
D'accord. Et puis, bon, dernière petite chose, on a fait, mais c'est peut-être collègue de la BNF ou à vous-même de répondre, il y avait un certain nombre d'erreurs qui ont été observées hein, dans la liste des 60 000, doublons, ouvrages qui n'étaient pas indisponibles, etc. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui a été observé? Est-ce que la liste est nettoyée?
Alors là, je pense que Gilles Dassilien peut intervenir sur ce plan. Et sur la difficulté du repérage de la vraie disponibilité, il n'y avait pas de fichier exhaustif. Allez-y, je vous en prie.
Ce registre qui est en ligne a été fait en 3 mois suite aux dispositions qui ont conduit la BNF à être opérateur de cette opération. Je suis personnellement responsable de la conduite de ce projet. Je voudrais juste, parce qu'on a beaucoup tapé sur la BNF, et il y a eu beaucoup d'amalgames, je pense, entre le registre, le dispositif, etc. Donc je tiens à préciser des choses aussi pour défendre mes équipes. On a recruté, et c'était important que ce soit des moyens fléchés dédiés à ce projet. Donc je tiens à préciser que ce ne sont pas des moyens qui ont été pris sur les ressources et les fonctions existantes de la BNF, des moyens dédiés. On a recruté une équipe de 6 personnes. 3 informaticiens et 3 contractuels de profil bibliothécaire. On a passé un marché avec Electre suite à la publication d'un appel d'offres qui nous a permis de disposer des données sur les ouvrages indisponibles qui ont été croisées avec les données du catalogue général de la BNF. Et par ailleurs, on a construit la plateforme. Ceci en 3 mois. On a fait au mieux. On a travaillé jour et nuit. Et évidemment, on ne construit pas une base de 60 000 ouvrages remplissant tous ces critères et suivant les critères de sélection qui étaient définis en même temps qu'on avançait, sans erreur. Voilà. Donc, que ce soit sur la présence de traductions, que ce soit sur la présence d'ouvrages qui étaient en réalité toujours disponibles ou qui sont redevenus en cours de traitement, il ne s'agit pas d'intention maléfique de la BNF, mais d'un processus qu'on a traité dans des conditions d'urgence, mais avec la meilleure volonté du monde. Voilà. un autre intérêt.
Et un processus qui s'améliore de jour en jour, enfin, où il y a de plus en plus de...
Ce qui est en ligne aujourd'hui est appelé à évoluer rapidement. Notamment, on a intégré progressivement et dès qu'on le pouvait en termes de ressources, les critiques fonctionnelles qui étaient apportées sur les procédures d'opt-out, sur l'information qui était sur le site, et notamment par rapport à une critique qui a été apportée tout à l'heure sur la possibilité de faire des retraits par lot. Ça, ce sera très prochainement en ligne. La mise à disposition de la totalité de la liste téléchargeable aussi, c'est arrivé. Donc, voilà.
Je voudrais dire un point, parce que sans vouloir remuer le couteau dans la plaie avec le droit de prêt, vous avez dit que c'était une usine à gaz. On est au total 15 personnes au sein de Sofia, dont 6 ingénieurs informaticiens. Et on gère plus de 8 millions de lignes par an. On sert des droits à 56 000 auteurs. On a par an 400 000 titres différents qui sont bénéficiaires de droits et 1 800 éditeurs, 1 600 déclarants libraires et 8 000 bibliothèques avec 15 personnes. Donc l'usine à gaz marche et cette usine à gaz ne sera pas pire que la précédente. Voilà, donc je voulais dire ça. Enfin, de la même manière que la loi sur le prêt avait été adoptée à l'unanimité du Parlement, donc tout parti confondu, cette loi du 1er mars 2012 a été adoptée à l'unanimité moins une voix, qui est celle d'un député. Pour le reste, tous les partis politiques l'ont approuvée. Donc elle a bien été perçue comme une loi pour le moins d'intérêt général, quelles qu'aient été les divisions partisanes existantes. Je pense que c'est un point important à relever.
Eh bien, je crois que le moment est venu de remercier tout le monde, de se dire qu'au cours de cette heure, chacun a pu s'informer et se construire une opinion ou se la conforter ou la faire évoluer, ce qui, naturellement, est l'essence même de la citoyenneté. Et nous sommes dans un petit parti dans le ton et le sujet de ce congrès. Et je vous souhaite bonne soirée. Je rappelle que, malgré quelques informations contradictoires, le pot offert par la mairie de Lyon est bien dans la mairie centrale, hein, à 19h, à la grande mairie de Lyon. Et puis ce congrès se continue demain et après-demain. Bonne continuation à tous.
Merci Dominique, merci à vous.